Bonsoir, comment allez-vous ? L'avocate, défendant les détenus de la prison de Nîmes qui ont poursuivi l'État cette semaine pour conditions de détention épouvantables, a prononcé cette phrase. « Si vous traitez les gens comme des animaux, ils se comporteront comme des animaux. » Ces mots m'ont fait de la peine, pour ces hommes d'abord qu'elle défend. Ils m'ont ensuite laissé perplexe pour les animaux. Comment les traite-t-on en fait ? On les enferme, on peut les attacher, les battre, les exploiter, les tuer. Et puis, on les considère comme des êtres ayant juste des nerfs et des réflexes, mais démunis d'intelligence et de sensibilité. Et la deuxième partie de sa phrase, « se comporter comme un animal ». Cela laisserait-il entendre qu'un animal se comporterait plus mal qu'un humain ? Quoi qu'il en soit, je ne souhaite à personne d'aller en prison et j'espère que Maître Aoudia réussira à faire passer son message que je pourrais résumer par « punir n'est pas détruire ».
Bonjour, j'aimerais savoir quels étaient les critères pour envoyer les gens au bagne plutôt qu'en prison. Merci d'avance, au revoir.
Merci pour cette question, Jean-Marie Delarue. Les critères pour envoyer les gens au bagne plutôt qu'en prison. Moi, j'aurais besoin d'un petit point d'histoire.
Alors, on va essayer de faire en effet un peu d'histoire, puisque le bagne aujourd'hui n'existe plus. Nos auditeurs doivent le savoir. Mais peut-être que beaucoup de gens ont lu Papillon, ont lu Albert Londres. Eh bien, le bagne a existé en France pratiquement jusqu'à la dernière guerre, juste après la dernière guerre.
C'est tard.
Et il a existé en permanence depuis le code pénal moderne, on va dire, depuis Napoléon. Le bagne existe. Et on transportait les gens pendant longtemps en Algérie, dans le sud algérien notamment, vous savez. En Nouvelle-Calédonie, c'est le cas des communards peut-être.
Louise Michel.
Voilà, Louise Michel a été en Nouvelle-Calédonie. Et puis, dans les années 1920-1930, on s'est polarisé sur la Guyane, où c'était en effet le seul bagne encore ouvert. Et donc, les gens qui étaient condamnés embarquaient du côté de La Rochelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, il y a une maison centrale qui est installée dans l'île de Ré, à Saint-Martin-de-Ré, où on mettait là les gens en instance de départ.
En
et
transit.
Puis ils partaient. Ils partaient bien plus souvent pour ne plus revenir. Vous savez comment on baptisait le bagne ? On disait souvent, c'est la guillotine sèche. Ah. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas couler le sang, mais la plupart de ceux qui partaient ne revenaient jamais.
Donc il fallait avoir pris perpète pour aller au bagne ?
Pas nécessairement.
Ah bon ?
Il fallait avoir une condamnation sérieuse naturellement, plutôt une longue peine, mais pas nécessairement perpète parce que en principe, fictivement, on vous laissait partir au bagne avec un espoir de revenir. Il y avait deux obstacles qui faisaient qu'on ne pouvait pas revenir. C'était d'une part la maladie, les travaux difficiles qu'on faisait. La Guyane n'a pas un climat très salubre, surtout dans les années 30 et 20. On avait encore des maladies qui n'étaient pas soignées. Et par conséquent, beaucoup de gens mouraient sur place. Et puis si on arrivait à la fin de la peine, il y avait une possibilité qui existait dans le code pénal français, qui a subsisté jusque dans les années 60. C'est ce qu'on appelle la relégation. La relégation, c'était une peine qui, pour les bagnards, leur interdisait de revenir en métropole, en quelque sorte. On les laissait libres en Guyane, mais ils ne pouvaient pas revenir sur le lieu de leur forfait, c'est-à-dire en France métropolitaine. Et par conséquent, ils étaient libres, mais sur place. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles, au fond, peu revenaient. Tout le monde a connu l'histoire, j'espère, en tout cas nos auditeurs connaissent l'histoire d'Alfred Dreyfus, emprisonné en Guyane à l'île du Diable. Dénommé ainsi bien avant lui, je précise heureusement, mais qui est revenu tout simplement parce qu'il a été reconnu innocent par la Cour de cassation en 1906, mais il a passé plusieurs années là-bas.
Et alors, qu'est-ce qui faisait qu'on décidait d'envoyer un tel au bagne et un tel en prison ?
C'est la gravité de la punition et par conséquent, par exemple, un criminel en récidive était inévitablement condamné au bagne. C'était une espèce de peine aggravante, si vous voulez, hein. Les plus grands criminels, mais il y avait quand même une idée du crime qui était plus large qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait plusieurs centaines de personnes qui pouvaient partir chaque année en Guyane française ou ailleurs.
Jean-Marie Delarue est l'ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il a évoqué le livre Papillon qui, comme vous le savez, a été écrit par Henri Charrière. Et on raconte dans le petit milieu des éditeurs à Paris que Henri Charrière a été invité à New York avec son éditeur pour participer à une manifestation littéraire et qu'il a exigé un billet d'avion en première. Et son éditeur a dit non, un billet d'avion en première, c'est très cher. Déjà, un billet d'avion, point pour aller à New York, c'est bien. Henri Charrière a dit non, moi j'y vais en première ou j'y vais pas. Et l'éditeur a dit, attends, pour un ancien bagnard qui a vécu à la dure comme ça, tu peux prendre un billet d'avion. Enfin bref, rien n'y a fait. Henri Charrière a dit, j'y vais en première ou j'y vais pas. Finalement, ils ont voyagé tous les deux en première. Et puis là, ils étaient assis à côté d'un homme avec qui ils ont bu du champagne, comme c'est la coutume en première. Ils ont mangé des choses délicieuses et puis ils ont discuté. Et il se trouve que cet homme était un cinéaste et il a acheté les droits du livre pour une adaptation au cinéma. Et quand ils sont sortis de l'avion, Richard Yer a dit à son éditeur « Eh, dis donc, lui, on l'aurait pas trouvé en classe touriste, hein ?»
Bonjour, je m'appelle Genoveva, j'ai 9 ans et demi, et je voudrais savoir si les oiseaux peuvent ressentir de l'amitié pour un autre oiseau. Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Josepha, c'est Dominique Lestel qui va te répondre de l'amitié entre oiseaux.
Il faudrait définir d'abord un peu ce qu'on entend par amitié, c'est un terme qui est un peu large. Alors si on entend une proximité physique, familière, quotidienne, avec une dimension émotionnelle forte. Oui, on peut trouver des comportements, de tels comportements chez certaines espèces animales au moins. Alors il faut savoir qu'il y a énormément d'espèces d'oiseaux et que ça ne s'applique pas à tous les oiseaux. Mais on sait que chez certaines espèces d'oiseaux, par exemple chez certaines oies, on peut avoir des comportements de ce type, on peut avoir des attachements, en particulier entre un mâle et une femelle, qui sont des attachements extrêmement forts, extrêmement puissants, qui vont durer toute la vie et qui peuvent être considérés véritablement, me semble-t-il, comme des formes d'amitié.
Dominique Lestel, j'ai l'impression que moi, les pies, je les vois toujours par deux.
Oui, je pense que chez les pies, on a aussi des comportements de ce type. Alors, il faut savoir que les pies sont des corvidés, qui sont des animaux exceptionnellement développés et intelligents. On a, parmi les oiseaux, d'un point de vue cognitif, il y a deux groupes qui sont particulièrement intelligents, ce sont les corvidés et les perroquets. Et je pense que chez les perroquets aussi, on peut avoir des attachements de ce type. Et si vous me posiez également la question pour savoir s'il pourrait y avoir des amitiés entre un homme et un oiseau, là aussi, je vous répondrai positivement, en particulier entre les hommes et les perroquets et entre les hommes et les corbeaux. Les corbeaux sont des animaux extraordinaires, des oiseaux extraordinaires. Mais attention, incroyablement caractériels, comme les perroquets aussi. Les perroquets les plus attachants, comme les gris du Gabon, sont des animaux extraordinaires, mais très caractériels. Il est très difficile de vivre avec eux. Ceci dit, il faut savoir que, par exemple, un perroquet gris du Gabon a une intelligence qui est comparable à celle d'un chimpanzé. C'est-à-dire que, à ma connaissance, il n'y a rien qu'un chimpanzé puisse faire et qu'un perroquet gris du Gabon ne puisse pas faire.
Ah bon ? Je me disais, Dominique Lestel, que si un oiseau pouvait être ami avec un humain, forcément un oiseau peut être ami avec un oiseau. Au départ, c'est qu'il connaît l'amitié. Donc dans son monde d'oiseau, il a expérimenté l'amitié. Sinon, il ne serait pas ami avec nous par la suite s'il est adopté.
Oui, mais c'est plus compliqué que ça parce que, d'une part, on peut développer des liens de dépendance avec cet oiseau qui nous conduisent à penser qu'on est dans une relation d'amitié. Et
c'est pas la
que
même
ces
chose.
Liens ne sont pas les mêmes que ceux qu'il aurait développés en milieu naturel ou de façon spontanée avec d'autres oiseaux. Je pense qu'il y a des animaux qui peuvent avoir une proximité extrêmement grande avec vous parce que vous les nourrissez, par exemple, sans qu'on puisse considérer véritablement que ce sont des amis. Je pense que vous pouvez apprivoiser certains reptiles très bien en les nourrissant régulièrement, mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait considérer qu'on puisse développer quelque chose comme de l'amitié avec ce reptile.
Dominique Lestel est philosophe, éthologue, maître de conférences à l'École normale supérieure, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Et vous trouverez la liste de ses ouvrages sur le site des Petits Bateaux. Eliane avait un perroquet qui imitait la sonnette de la porte d'entrée. Et comme il le faisait tout le temps, elle n'allait plus ouvrir quand on sonnait. Ce qui fait que quand on allait chez Eliane, si on n'avait pas téléphoné avant, elle ne nous ouvrait pas à cause du perroquet.
Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle. Drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline. Drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui, l'amour de ma vie. Je sais que c'est lui. Jour comme la nuit, je suis à lui. Flèche une aurore dans mon décor, casque d'or au cuir sonore, drôle de bête, un indien dans ma fête. Flèche pas farouche,
C'était Juliette Armanet, l'Indien.
Les petits bateaux sur France Inter.
Alors, vous connaissez le principe de l'émission Les petits bateaux. Des enfants téléphonent et des savants leur répondent. Hervé Tis, vous le connaissez bien, petit bateau. Il est physico-chimiste à l'INRA, membre de l'Académie d'agriculture.
Bonjour, je m'appelle Claire. J'ai 8 ans et j'aimerais savoir pourquoi le lait est blanc.
La couleur, Hervé Tis, vous vous intéressez beaucoup au volume, aux formes que prennent les choses de la cuisine. Et maintenant, la couleur.
Oui, la couleur, c'est fascinant parce que je vais commencer par le blanc en neige. On prend un blanc d'œuf qui est jaune, en fait, jaune tirant vers le vert. On le bat en neige et ça devient blanc. Pourquoi ça devient blanc? C'est quand même bizarre.
Ouais.
Ou alors on prend un blanc d'œuf, on y fouette de l'huile qui est jaune et transparente. Et là encore, ça va devenir une préparation crémeuse et blanche. Pourquoi? Alors, dans le premier, c'est mousse. Dans le second, c'est émulsion. Alors, émulsion, c'est un très vieux mot qui a été introduit en français en 1560 par le chirurgien du roi, Ambroise Paré, un grand médecin. Et il avait décrit sous ce nom-là toutes les préparations blanches et un peu épaisses, comme la mayonnaise, par exemple. Voilà. Et il avait raison, comme le lait, parce que émulsion, ça vient de émulgere, qui veut dire traire en latin. Et on traite les vaches pour avoir du lait. Et le lait est blanc. Alors, le lait, c'est de l'eau. Mais c'est pas seulement de l'eau, il y a aussi des gouttelettes de matière grasse. Et quand vous mettez de la matière grasse dans l'eau, vous allez voir que ça peut blanchir si la lumière est blanche. Parce que si vous éclairez du lait avec de la lumière rouge, vous verrez que c'est rouge. Voilà. Et si vous mettez de la lumière bleue, c'est bleu. Parce que, imaginez donc, vous prenez un verre, vous y mettez de l'eau. Pour l'instant, c'est transparent. Bon. Maintenant, vous allez mettre de l'huile à la surface. Donc, elle vient flotter. Et avec un fouet de cuisine ou une fourchette, vous allez touiller ça très très fort. Vous allez faire la dispersion de l'huile en gouttelettes. Et ces gouttelettes seront dispersées dans l'eau et vous allez voir que ça blanchit. Pourquoi? Parce que quand la lumière du jour qui est blanche arrive, elle traverse l'eau, elle arrive sur une gouttelette et elle se réfléchit comme dans un miroir. Et en fait, plus vous aurez de gouttelettes, plus ça sera blanc parce que vous aurez beaucoup de réflexions blanches. Et voilà pourquoi avec de la lumière rouge, ça serait rouge parce que vous auriez beaucoup de réflexions rouges.
Donc si je comprends bien, la lumière traverse l'eau.
Ouais.
Mais ne traverse pas l'huile, elle se réfléchit.
Elle se réfléchit sur les gouttelettes d'huile, oui. Comme à la surface d'un étang. Et donc, vous voyez des reflets. Ce qu'on voit, c'est des reflets. C'est pas la couleur de l'objet, parce que l'huile, elle est plutôt jaune, l'eau, elle est transparente, et les protéines, elles n'ont pas de couleur. Donc, ce qu'on voit, c'est la lumière qui éclaire.
Hervé Tis a écrit beaucoup de livres. Je vais vous citer celui-ci, Mon histoire de cuisine, et c'est édité chez Belin.
Bonjour, je m'appelle Augustin. Je voudrais savoir depuis quand les enfants jouent aux billes.
Corinne Jacquemin, vous êtes écrivain, vous êtes spécialiste des jeux et vous avez mené des recherches sur les billes.
Oui, tout à fait, et je vais essayer de répondre à Augustin. J'aurais envie de te répondre que depuis qu'il y a des enfants qui trouvent sur leur terrain de jeu des noisettes, des noix, des petits cailloux, ils jouent aux billes. Si tu voyages un jour, essaye de demander aux gens que tu rencontres s'ils ont joué aux billes. Et tu seras étonné de savoir que aussi bien des adultes que des enfants jouent aux billes. Et ça, dans le monde entier. Au Japon, dans le Sahara, aux États-Unis, dans tous les pays du monde, on joue aux billes. Mais alors, on est sûr que les enfants jouent aux billes depuis au moins 6000 ans. Parce qu'on a retrouvé dans un tombeau, le tombeau de Toutankhamon, en Égypte, c'est un pharaon, on a retrouvé des billes.
Mais vous pensez que le pharaon adulte, il joue aux billes?
Alors, il est mort assez jeune, ce pharaon. Alors, est-ce la raison pour laquelle il a été enterré avec ses jeux? Peut-être que plus âgé, il aurait été enterré avec d'autres objets. Ce sont les archéologues, en fait, qui nous renseignent sur la bille. Et par exemple, aux États-Unis, on a retrouvé sur des sites archéologiques de Première Nation, on a retrouvé des billes en terre ou en pierre qui semblent être, non pas des bijoux parce que ça pourrait l'être, mais qui paraissaient être des jeux. Sinon, c'est très difficile de dire est-ce qu'on jouait aux billes. On voit des billes, en effet, on retrouve des billes, mais c'est difficile de dire on jouait aux billes ou à quel jeu on jouait aux billes. Alors sinon, on retrouve des billes dans les écrits, en fait. Dans les écrits, en Grèce, on retrouve certains poètes, Pollux et Cratinus, qui parlent du jeu de billes entre les représentations théâtrales. À Rome, on parle de l'empereur Auguste qui jouait aux billes, c'était son jeu familier. On retrouve par contre au Moyen-Âge Charles IV, Charles le Bel, qui interdit le jeu de billes parce que cela corrompt ses sujets. Il y a trop de paris ou de querelles avec les jeux de billes.
En fait, il y a toujours eu des paris avec les jeux de billes. Ceux qui ont joué aux billes dans les cours de récréation, en jouant aux billes, on gagne des billes.
Alors aujourd'hui, c'est intéressant parce que le terrain se prête moins aux jeux de billes. La cour de récréation
est bétonnée.
Le chemin, le trottoir n'appartiennent plus aux enfants. Donc, les enfants, par contre, ont toujours des billes. Ils sont toujours passionnés par les billes, mais ils deviennent des traders. Ils deviennent des banquiers. Ils adorent la bille comme monnaie d'échange. Et ils jouent beaucoup moins aux jeux d'adresse, en définitive. Ils connaissent très peu de jeux d'adresse, mais par contre, pour être banquier ou trader, ils sont très bons.
Merci Corinne Jacquemin. Moi, j'ai beaucoup joué aux billes enfant. Il y avait que des garçons, hein, cela dit, qui jouaient aux billes. Et on faisait des pistes dans la bouillasse, et nos billes avaient des noms de coureurs cyclistes. Louison Bobet, Eddy Merckx. Ça me rajeunit pas tellement de vous raconter ça, oubliez. C'était The Cure sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Quand on est en voiture et qu'on voit un radar, on se demande toujours si on a été flashé, même si on va à la bonne vitesse. Si c'est bien nous qui flash, ou si c'est la voiture d'en face, ou de derrière, ou de devant, comment ça flash. Enfin, on se pose toujours tout un tas de questions sur ces machines.
Bonjour Petit Bateau, bonjour Noël. Je m'appelle Vu, j'ai 11 ans, et je voudrais savoir comment marchent les radars. Merci de me répondre, au revoir.
Merci pour ta question, Jules. Comment marchent les radars, Cédric Rey ?
Alors, bonsoir, Jules. Les radars, ils fonctionnent avec un principe qu'on appelle l'effet Doppler. On envoie une onde électromagnétique sur la voiture avec une fréquence donnée. Et comme la voiture se déplace, eh bien, la fréquence de l'onde va varier en fonction de la vitesse de la voiture. Ça, c'est vraiment comment fonctionnent les radars. Maintenant, pour essayer de comprendre pourquoi la fréquence de l'onde se modifie. C'est un petit peu compliqué, mais on peut comprendre assez simplement en jouant au tennis. Imaginons un lanceur de balle de tennis qui lance une balle toutes les secondes. Si je m'approche du lanceur quand j'ai reçu une balle, eh bien la deuxième balle me semble arriver plus vite.
Oui.
Et donc la fréquence de réception des balles me semble plus courte.
Bien sûr.
Si je m'éloigne de la machine, eh bien à contrario, la deuxième balle va m'arriver plus tard et du coup, j'aurai l'impression que la fréquence d'émission des balles sera plus grande. Eh bien, c'est un peu le même principe, c'est lorsque un objet se déplace, on a cet effet qui a été trouvé par M. Doppler, donc qu'on appelle l'effet Doppler, qui fait que la fréquence de l'onde réfléchie va varier en fonction de la vitesse de cet objet. Et donc, on utilise cette propriété sur les voitures où l'onde électromagnétique est réfléchie et la différence de fréquence va nous donner la vitesse relative de la voiture par rapport au radar. Comme le radar est fixe, en général, ça nous donne directement la vitesse de la voiture. Donc ça, c'est le premier type de radar qu'on appelle radar avec une onde électromagnétique. Puis maintenant, il y a aussi des radars avec des lasers où on va mesurer le temps pour le laser pour être réfléchi par la voiture. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui va viser directement pour être sûr de bien viser au bon endroit. Alors, c'est des lasers de faible puissance hein, qui ne risquent rien. Mais on va mesurer le temps que va mettre la lumière pour revenir depuis la voiture. Et là aussi, avec plusieurs positions de la voiture, on va en déduire eh bien, la vitesse de la voiture.
Voilà, c'est pas évident à comprendre. Hein. Cédric Rey est maître de conférence à l'université Claude Bernard de Lyon. Alors peut-être qu'on comprend mieux si on le lit. Il a écrit « La physique par les objets quotidiens » et c'est édité chez Belin. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, Maxime Ingrand, Marjorie de Voucou, Eliane Girard et Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Vous pouvez aller faire un tour sur notre site et podcaster cette émission. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec Denis Chessoux pour la Tulu, mon petit loup.